Radio Présence pour l'émission Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Timothée Rouvière vous donnera les résultats sportifs du week-end sans oublier les débats avec ce soir le football et l'équipe de France qui a concédé sa première défaite depuis mars et le rugby avec aussi l'équipe de France qui, elle, a gagné enfin depuis mars. Enfin, nous recevrons Boris Rothermund, DTN adjoint à la Fédération française de baseball. Avec nous aujourd'hui, Lucas Serdig. Bonsoir, Lucas.
Bonsoir, Jean.
Maxime Brossard. Bonsoir, Maxime.
Salut.
Et Timothée Rouvière. Bonsoir, Timothée.
Bonsoir, Jean.
Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
C'est bien DTN adjoint de la Fédération française de baseball, on en parlera.
Oui. Et de softball.
Et de softball.
Et de softball. Et de softball. Voilà. On est bien d'accord. Comment vous allez en ce lundi?
Bien et vous, Jean?
Bien mieux que toi en tout cas.
Bah, ouais.
Oui, j'ai la voix grave.
La voix est fatiguée, on dirait.
Parce que tu découvres ce que c'est que la mue en fait.
C'est ça. Je suis majeur depuis peu.
Moi aussi, j'ai un peu la voix enraillée. C'est bizarre.
C'est le temps. C'est le temps.
Mais ça fait un petit côté métallique là, c'est rock and roll, ça passe pas mal.
Ouais. C'est un hommage pour Johnny.
Ouais,
en tout cas, c'est une belle voix radio.
C'est super radiophonique. On l'entend là. C'est magnifique. Je vais me réécouter d'ailleurs.
Ambiance
ce soir.
Souhaiterait.
Voilà.
pour t'endormir.
Moi, ça va moyennement par la santé. Vous, ça va moyennement pour le moral, Lucas.
Le moral va bien. Le moral
qu'est-ce
va
qui s'est passé avec la voiture?
Ma voiture, elle a dit stop. C'est fini. C'est fini. Sur l'autoroute.
Sur l'autoroute.
Mais oui.
C'est les gilets jaunes, ça.
C'est comme ça. Et non, les gilets jaunes, ils nous laissaient tranquilles à ce moment-là. Non. Ils ont dit, bah voilà, c'est comme ça.
Elle était âgée,
cette voiture. Elle n'était pas si âgée que ça. Elle avait que 14 ans. Mais elle était à l'article de la mort, comme vous.
Moi, je vais peut-être pas finir l'émission.
Comme Jean, elle a 14 ans.
14 ans, c'est précisément ça, en plus. C'est fort, quand même.
Tu
connaissais l'âge de ma voiture, c'est fort.
Et tu viens de le dire, en plus.
Ah, je l'ai dit ? Mince.
Et voilà.
On est très fatigués. On va faire de notre mieux, chers auditeurs. J'espère que vous êtes prêts, messieurs, pour cette nouvelle émission. On démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Vous commencez à avoir l'habitude, chaque semaine vous nous parlerez d'un événement qui vous a marqué. Cette semaine, vous êtes plutôt heureux. Comment ne pas l'être, bien évidemment, avec l'équipe de France de rugby. On va en parler juste après. On commence avec le tennis, avec vous, Lucas Serdig, et la victoire au Masters de Zverev.
Oui, de Zverev, ce jeune prodige allemand que certains voulaient déjà enterrer, bizarrement, parce qu'il a commencé tellement fort, des 19-20 ans, à gagner des Masters 1000, il en a déjà 3 à son actif. Là, aujourd'hui, il a 21 ans et il a remporté ce week-end le Masters, tout simplement, le tournoi de fin de saison qui regroupe les 8 meilleurs joueurs de la saison, en battant, s'il vous plaît, en demi-finale Roger Federer et en finale Novak Djokovic.
Donc c'est pas sous-côté, hein, sa victoire.
Ah non, c'est pas sous-côté du tout, c'est un enchaînement que seules 3 personnes ont fait jusqu'à présent dans toute l'histoire du tennis. Hein. Et le dernier, c'était Andy Murray en 2012 au JO, et avant ça, il faut remonter à plus de 10 ans. Donc on est quand même sur un exploit incroyable. Il rentre dans la catégorie des monstres, puisque à 21 ans, avoir gagné ce tournoi, pour l'instant, il y en avait que 3 qui l'avaient fait, c'était Ivan Lendl, Boris Becker et Novak Djokovic lui-même. Donc voilà, ça présage d'une très très grande carrière, comme on pouvait l'imaginer il y a un an et demi quand il a remporté son premier Master 1000. Mais il stagnait un petit peu, notamment en Grand Chelem. Voilà, dès qu'il y a des matchs en 5-7, il a peut-être un peu plus de mal. Il n'avait pas fait mieux qu'un quart de finale à Roland-Garros, et c'est un petit peu une anomalie pour quelqu'un qui déjà était sur le podium du tennis mondial et qui a réintégré le top 4 aujourd'hui. Mais bon, ça viendra, 21 ans, c'est l'avenir, et avec des joueurs comme lui, comme Karen Khachanov aussi, qui a fait forte impression à Paris, on a une relève là vraiment très sérieuse pour l'élite du tennis mondial.
C'est le futur simplement du tennis mondial, Timothée Rouvière.
Oui, on peut dire que c'est le futur, hein, comme le disait Lucas, à 21 ans, remporter une victoire d'aussi belle facture que l'a fait Alexander Zverev, on aimerait bien avoir un Français aussi performant en Grand Chelem et en Master 1000. Moi, je pense que s'il progresse un petit peu sur le côté mental, il pourra aller très très loin, parce qu'il a un jeu vraiment, une panoplie bien complète.
Et puis il est déjà très fort, hein, côté mental. Enfin, c'est à 21 ans, faire ce qu'il fait, c'est vraiment phénoménal.
C'est le futur avec Tim aussi.
Avec Tim. Dominic Tim, oui, même s'il est déjà un petit peu plus âgé, Dominic Tim, je pense vraiment plutôt à quelqu'un comme Karen Khachanov ou alors Alexander Tsitsipas, le grec qui a fait forte impression aussi cette saison.
Dominic Tim.
Dominic Tim, il doit avoir plutôt 24 dans ces eaux-là, 24-25. Zverev, il est vraiment très très précoce.
Hein. Oui, oui.
C'est incroyable de le voir aussi haut placé déjà à son âge. Voilà, lui, c'est vraiment le futur numéro 1 mondial, on le dit depuis longtemps, ça se confirme.
Surtout que ça fait longtemps que l'Allemagne n'a pas connu de grands champions. On sait qu'il y a Michael Schreiber. Il y a quelques années, Boris Becker, mais c'était il y a un peu plus longtemps, donc là l'Allemagne peut compter sur un petit prodige.
Ah oui,
Timothée Rouvière, gardez la parole. Votre coup de cœur ce soir, on va parler rallye avec le titre de champion du monde pour Ogier.
Le sixième titre de champion du monde, sixième titre consécutif. Hein. Il n'est plus qu'à trois titres de Sébastien Loeb, donc le nonuple champion du monde français sur Citroën. Ça fait tout simplement 15 ans que l'équipe, que la France gagne sur le rallye en WRC. Donc c'est
incroyable.
C'est une belle performance. En plus, ça a été compliqué. Il était sur une voiture qui était moins performante par rapport à Ford.
Il était
sur une Ford Fiesta M Sport de l'équipe privée.
C'est pas une voiture officielle.
Il a battu un Estonien qui s'appelle Ott Tänak. Il a battu aussi le Belge Thierry Neuville, qui avait des voitures plus performantes. Ouais. Ça a été très compliqué. Il a dû attendre la dernière manche de la saison et le Rallye d'Australie pour l'emporter.
Il a eu pas mal de chance, mais ça se provoque. Hein,
oui, il a eu de la chance, mais voilà, il a commencé tambour battant avec 3 victoires en 4 rallyes dès le début de la saison. Ça a été plus compliqué au milieu avec des abandons et beaucoup de remises en question.
Il a été à un moment donné troisième même. Hein.
Tout à fait. Il n'était pas en tête à chaque fois. Et là on a encore un titre de champion du monde pour Sébastien Ogier qui pilotera chez Citroën. Donc il y a encore la possibilité de gagner l'année prochaine.
J'étais pas parti Citroën
Citroën revient. Citroën revient. Ouais, c'est ça. Mais ils sont déjà revenus depuis 2 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises. Sébastien Ogier, lui, il avait quitté Citroën à l'époque parce qu'il était en concurrence avec Sébastien Loeb. Ouais, voilà. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il était parti au moment précis où Sébastien Loeb s'en allait. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, il était visiblement en mauvais terme. Et je pense qu'il voulait prouver aussi par lui-même. Et ce qu'il a réussi très très bien à faire. Même s'il gagne de façon un petit peu plus laborieuse, ça n'en est pas moins méritant. Parce que justement, Loeb a fait toute sa carrière chez Citroën. Lui, il a déjà gagné avec deux marques différentes. C'est impressionnant.
Et enfin, le dernier coup de cœur, on va le dire aux auditeurs, il est général. Hein, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les coups de cœur et les coups de gueule, je demande à mes chroniqueurs qui sont ici autour de la table de m'envoyer au cours du week-end, au cours de la semaine, c'est plus au cours du week-end, l'actualité qu'ils ont aimé, pas aimé.
Ouais.
Et là, juste après le match, 5 secondes après le match, je reçois déjà. 2 SMS.
Une avalanche.
Voilà, une avalanche.
J'étais plus rapide.
Donc le plus rapide a été Maxime Brossard, mais on est d'accord, messieurs, pour dire que c'est un coup de cœur général sur l'équipe de France féminine de rugby.
Ah ouais, évidemment.
Qui a pour la première fois de son histoire battu les All Blacks.
Oui, les championnes du monde, elles avaient perdu 14-0 à Mayol la semaine d'avant. Là, elles jouent à Grenoble devant un public qui a répondu présent. En plus, il y a un bel engouement.
Le stade était plein.
Ouais, franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai tout cassé chez moi. La table basse, le chat, la tasse de café. Enfin, c'était. Ouais, voilà, je me suis emporté. 30-27, ça s'est joué sur le film, mais finalement on a vu que ce match peut servir vraiment d'exemple, notamment pour l'équipe masculine, parce qu'il y avait tout, maîtrise, technique. Elles ont su gérer les temps forts à merveille. Quand il a fallu faire le dos rond et qu'elles étaient pressées, elles ont défendu ardemment. C'était vraiment
le score aurait même pu être plus ample.
Plus ample.
30-27.
Moi, j'ai été surpris vraiment par la qualité technique, par les vitesses de course, les impacts aussi. Il y a eu quelques plaquages qui étaient limites quand même des néo-zélandaises, mais j'ai trouvé que c'était incroyable. La générosité de cette équipe féminine, c'est un bel exemple pour tout le rugby, pas que l'équipe de France masculine, mais le rugby en entier. C'est vraiment incroyable.
On en parlera de l'équipe de France masculine de rugby tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Timothée Rouvière, Maxime Brossard l'a dit tout à l'heure, ça peut être un exemple pour les hommes finalement.
Ça peut être un exemple sur les hommes. Hier, par exemple, il y avait sur Stade 2 Safi El Diaye, qui est deuxième ligne de l'équipe de France, qui racontait un petit peu comment s'était passé le match. Et Guirado, le capitaine de l'équipe de France, était assis à côté et qui disait on a arrêté le match des filles et on a pris exemple parce que. Et surtout, ce qui est positif, c'est que le match était diffusé sur France 2. Donc pour l'impact médiatique, c'est vraiment vraiment bien.
Ouais, avec un compte à rebours et tout, ils l'ont vraiment bien
mis en valeur. Ils ont vraiment bien amené le truc. Et surtout, Safi El Diaye disait que les gens s'intéressaient au rugby féminin et qu'on voit qu'il y a du jeu qui est développé et c'est pas uniquement stéréotypé.
Ça envoie quand même dans les. Ça faisait 4 ans que les néo-zélandaises n'avaient pas perdu un match officiel. Enfin, c'est incroyable. Je sais pas si on mesure un peu les exploits.
Ça a été un triste week-end pour la Nouvelle-Zélande puisque les garçons aussi.
Oui, ils ont perdu un match.
Mais on va dire un petit 5 coups de cœur aussi. Ce match était quand même incroyable.
C'était le coup de cœur d'ailleurs la semaine dernière. dernière.
C'était l'annonce du match.
C'était l'annonce du match.
J'avais senti
un coup de cœur celtique.
Ça allait être le match à suivre. Mais déjà, il y avait eu quand même contre l'Angleterre qui était assez hallucinant. Et là, on a atteint des niveaux de jeu incroyables. Là, honnêtement, c'est la stratosphère. C'était les deux meilleures équipes du monde. Donc, de toute façon, ça pouvait être qu'un match incroyable, normalement. Mais là, l'Irlande, moi, ils m'ont impressionné. C'est.
Il y a la Coupe du Monde dans 9 mois, oui. Pareil, on va en parler encore tout à l'heure, mais est-ce que c'est finalement la finale rêvée Irlande-Nouvelle-Zélande à l'heure actuelle ? Il n'y a pas mieux
à l'heure actuelle, c'est vrai, mais bon, 9 mois, c'est long.
C'est long, et puis en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la préparation ne sera pas la même. Là, les équipes du Sud étaient en fin de saison, elles étaient un peu fatiguées, un peu cabossées.
C'était le moment de les prendre.
Et c'était le moment de les jouer.
Comme l'Afrique du Sud, d'ailleurs.
Voilà. Oui. L'Écosse a perdu aussi contre l'Afrique du Sud, et pour l'instant, je crois une des seules nations, les deux seules nations à avoir fait un sans faute, c'est le Pays de Galles et l'Irlande, les nations celtes, comme on avait annoncé la semaine dernière.
Et pour l'équipe de France, le tournoi des six nations, il faudra vraiment battre l'Irlande.
Oula, il faudra bien figurer déjà. Je pense qu'on serait content de faire un match correct face aux Irlandais. Et puis non, le principal, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est rétablir l'équilibre face aux nations supposées plus faibles. Battre l'Italie sans coup férir, battre l'Écosse logiquement aussi, parce que même si l'Écosse a largement progressé, rivaliser avec les Gallois, embêter l'Angleterre et titiller l'Irlande, ce serait déjà pas mal avec pourquoi pas un petit exploit par-ci par-là.
On parle au podium.
On parlera du rugby tout à l'heure. On se retrouve, nous, dans moins de 4 minutes avec la chronique santé avec Didier Rubio. À tout de suite.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
C'était Bobby McFerrin sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'instant santé.
La chronique santé sur Radio Présence avec vous, Didier Rubio. Cette semaine, on va parler des graisses. Alors, dans le sport, on dit qu'il ne faut pas avoir de graisse. Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, Jean, les graisses, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que c'est quand même ce qui apporte le plus d'énergie, puisque 1 gramme de graisse apporte 9 kilocalories. À la différence des glucides et des protéines, par exemple, qui apportent que 4 kilocalories. Donc, à la base, on peut se dire que ce qui est important, c'est que finalement, les graisses, ou on appelle ça les lipides aussi, sont une réserve d'énergie. Donc, dans le sport, moi, j'ai tendance à vraiment indiquer la consommation de graisses, mais on va discuter de savoir lesquelles, bien sûr, et finalement, combien, quoi.
À quoi servent les graisses, finalement, leur point sportif ? Et où sont les bonnes graisses ?
Alors, au-delà de ce que ça peut apporter comme énergie, hein, ça apporte surtout aussi des acides gras qui sont dits essentiels, que l'organisme ne sait pas fabriquer, et qui vont aller nourrir les membranes cellulaires, par exemple, ou bien vont constituer la base des hormones, avoir des activités donc anti-inflammatoires. Donc, on comprend que les hormones, l'inflammation chez le sportif, c'est capital.
On en trouve où des bonnes graisses ? Parce que vous nous dites que, ben voilà, il en faut. Mais alors, les bonnes graisses, on les trouve où ?
Alors, effectivement,
on pense tout de suite effectivement, au sandwich et tout, mais c'est pas très bon.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien différencier deux types de graisses. Et c'est assez simple, c'est-à-dire les graisses qui proviennent des animaux et les graisses qui proviennent des végétaux. Donc je m'explique, les animaux, ça va être donc tout ce qui est viande par exemple, la viande de bœuf, de porc, de veau ou autre, la volaille bien sûr aussi, le poisson, les œufs. Et de l'autre côté, on a les graisses qui sont dites végétales qui vont être fabriquées à partir des plantes, comme des olives, du tournesol, du colza, des noix, des noisettes, des amandes, ou bien du sésame ou autre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que c'est pour le pire et pour le meilleur. C'est-à-dire qu'il faut privilégier les huiles végétales. Ça veut dire que ça doit faire partie dans le foyer. Il faut avoir plusieurs bouteilles d'huile, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de noix, de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Il vaut mieux privilégier des huiles qui vont être en bouteille, opaques, protégées du soleil, si possible de première pression, si possible bio. Alors là, on pousse le bouchon sur la qualité, mais c'est quand même, je pense, important. Et celles que l'on va essayer de réduire, ben, ce sont les animaux. Et donc, l'idée, c'est de manger moins de produits animaux.
Justement, si, dans l'absolu, on veut manger une viande, on va la cuire, bien évidemment. C'est quelle graisse qu'il faut pour accompagner cette cuisson ? Est-ce qu'il faut brûler, entre guillemets, et faire cuire du beurre dessus ou des huiles ? C'est quoi le mieux pour un sportif ?
Très bonne question. Donc l'idée, c'est que la viande que vous allez mettre dans la poêle, déjà, il faut contrôler sa quantité. Parce que, effectivement, les graisses, pour le sportif, c'est bien. Mais il y a tout de même une histoire de quantité, puisque comme c'est très calorique, il faut adapter. Donc la quantité de viande, de charcuterie, par exemple, parce que là, ça devient plus gras, encore une fois. On va essayer de limiter donc cette quantité à des portions adaptées. Et ensuite, pour cuire, il faut éviter de cuire du beurre. Alors, je sais qu'il y a des régions, s'ils m'écoutent, les habitants ne vont pas être très, très contents, parce qu'en Normandie, Bretagne et autres, ils font que ça.
Il y a beaucoup de beurre là-bas.
Ils font du beurre, effectivement. Mais c'est vrai que c'est quand même plus stable une huile qui supporte bien la chaleur, comme par exemple le tournesol ou l'olive. Et voilà, essayez aussi d'avoir des ustensiles. Moi, je conseille beaucoup aux sportifs d'avoir des poêles ou autres qui n'accrochent pas, de manière à ne pas mettre énormément d'huile pour cuire,
Pour toutes ces graisses, pour l'utilisation de toutes ces graisses, quelle est la limite à ne pas franchir ?
Bah, c'est délicat parce que tout dépend de l'individu, tout dépend du sport, tout dépend de l'énergie qu'il dépense dans la semaine ou pas. Si vous prenez quelqu'un qui s'entraîne tous les jours et qui fait 150 km de course à pied, il pourra consommer beaucoup plus d'huile et de graisse globalement que quelqu'un qui fait du tir à l'arc, par exemple. Les quantités, c'est quand même délicat de donner une quantité. Mais en principe, il faudrait que 30% de ce que l'on mange, de toute l'énergie que l'on mange,
par jour,
proviennent des graisses, proviennent des lipides.
Merci Didier Rubin.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence. On se retrouve la semaine prochaine pour la chronique santé et tout de suite, les résultats sportifs du week-end.
Sportez-vous bien. Jean Sureda.
Comme chaque semaine depuis août, depuis septembre même, un nouveau week-end intense pour les amoureux de sport. On fait le point avec vous, Timothée Rouvière. En football, fin de l'état de grâce pour l'équipe de France, on va en parler tout à l'heure.
Oui, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés 2-0 face aux Pays-Bas à Amsterdam. Des buts de Wijnaldum et du Lyonnais Memphis Depay. Les Bleus n'ont plus leur destin en main dans cette Ligue des Nations et devront compter sur une victoire ce soir de l'Allemagne face aux Néerlandais pour se qualifier pour le Final Four. Cette défaite est la première des Français depuis près de 8 mois. Dans les autres rencontres de cette Ligue des Nations, victoire de la Belgique 2-0 contre l'Islande avec un doublé de l'ancien Marseillais Michy Batshuayi. Match nul 0-0 entre le Portugal et l'Italie. Victoire pour la Croatie 3-2 contre l'Espagne. Et victoire aussi surprise pour la Suisse 5-2 contre la Belgique. La Suisse donc, le Portugal et l'Angleterre sont qualifiés pour le Final Four.
Il reste un billet, ce sera soit le Pays-Bas, soit la France, résultat ce soir. En rugby, enfin une victoire par contre pour les Bleus de Jacques Brunel.
Oui, on en a parlé tout à l'heure avec Maxime, notamment une victoire 28-13 face aux Pumas argentins. Les coéquipiers de Mathieu Bastaro ont franchi trois fois la ligne d'essai grâce à Teti Doma par deux fois et Guillaume Guirado. Une victoire probante mais une victoire aussi psychologique pour les Bleus parce qu'ils affronteront ces mêmes Argentins dans un an lors du Mondial au Japon. La France affrontera pour le dernier match de cette tournée de novembre les îles Fidji.
Toujours dans l'actualité du rugby, comment ne pas parler de la victoire des Bleus face aux Néo-Zélandaises ? On en a déjà un peu parlé.
On a parlé aussi tout à l'heure, les Bleus qui décrochent pour la première fois de leur histoire une victoire face aux Black Ferns, championne du monde en titre, une victoire 30-27. Au Stade des Alpes à Grenoble, les Françaises ont inscrit 4 essais par Caroline Drouin, Julie Duval, Maëlle Philippon et Romane Ménager. Une victoire historique et de bon augure avant la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Nouvelle-Zélande en 2021.
En handball, toujours pas de victoire pour le Phoenix.
Les hommes de Philippe Gardon ont concédé le match nul. Toujours pas de victoire depuis le début de la saison, ça commence à devenir inquiétant. Donc match nul pour les hommes de Philippe Gardon face à Saint-Raphaël, 29 partout. Les Toulousains sont plus derniers au classement, ils sont 13e, ils remontent d'une place. Un classement toujours dominé par Chambéry devant Nantes et Paris.
En rallye, vous en avez parlé tout à l'heure, nouveau titre de champion du monde pour Sébastien Ogier.
Le Français décroche son 6e titre de champion du monde consécutif. Il n'est plus qu'à 3 titres de son illustre aîné Sébastien Loeb. Le Français a profité des abandons de ses deux principaux concurrents, le Belge Thierry Neuville et l'Estonien Ott Tänak lors du dernier Grand Prix de du dernier rallye de la saison en Australie et permet à la France d'obtenir un 15e titre d'affilée en rallye. Ogier et son copilote Julien Ingrassia piloteront une Citroën l'année prochaine.
En MotoGP, un Grand Prix de folie à Valence et pour une fois, ce n'est pas le champion du monde Marc Marquez qui s'impose.
Oui, Marc Marquez out après une chute. La victoire est revenue à l'Italien Andrea Dovizioso devant Alex Rins et Paul Espargaro. Pour le dernier Grand Prix de la saison, le Français Johan Zarco échoue à la 7e place.
En tennis, première finale en Masters pour Alexandre Zverev et première victoire.
À 21 ans, le jeune Allemand, on a parlé tout à l'heure avec Lucas, s'impose face au Serbe Novak Djokovic 6-4, 6-3. Zverev, qui avait éliminé le Suisse Roger Federer en demi-finale, décroche là le plus beau titre de sa jeune carrière.
C'est le retour de la saison de ski, on est au mois de novembre et comme l'année dernière, on prend les mêmes et on recommence.
C'est l'Autrichien Marcel Hischer qui s'impose au slalom de Lévi en Finlande. Il devance le Norvégien Henrik Kristoffersen et André Mirer. Le premier Français, c'est Jean-Baptiste Grange, seulement 5e. C'est dommage dommage parce que durant la première manche, on avait deux Français, Clément Noël qui était troisième et Victor Mufajandet qui était quatrième, qui pouvaient concourir pour un podium, mais ils sont tous les deux sortis du tracé. Et chez les femmes, victoire pour l'Américaine Michaela Schifrin devant la Slovaque Petra Vlova et Bernadette Shield.
Envolée, défaite pour les Spacers face à Rennes.
Oui, une défaite 3-7-1 face au leader du championnat. Les Toulousains descendent au classement à la 9e place. En tête, Rennes domine toujours devant Tours et Montpellier.
Et un dernier mot de hockey sur glace avec les Belugas.
Les Toulousains ont obtenu une victoire probante, 10-1. Ouais. C'est un joli score.
C'était contre le dernier, non ?
C'était contre les derniers du championnat.
Tout à fait. Face à Limoges et au classement, Toulouse est 2e. Donc plutôt un bon résultat.
Bravo. Merci Timothée. On passe tout de suite au premier débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Champion du monde cet été avec un jeu d'une efficacité sans nom. L'équipe de France avait impressionné par sa maturité et sa solidité durant le mondial. Depuis, les Bleus ont plus de mal, plus attendus, moins concentrés. Les hommes de Didier Deschamps ont déçu vendredi face aux Pays-Bas. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on répond que par oui ou par non. Est-ce déjà la fin d'un cycle, d'un style de jeu ? J'entends par là, il y avait le style Espagne entre 2008 et 2012, le style Allemagne entre 2014 et 2017. Est-ce que c'est déjà terminé le style de l'équipe de France ? Lucas Cerdic.
Non.
Maxime Brossard.
Non.
Et Timothée Rouvière.
Ah oui, là c'est terminé. Hein. Ah.
Pourquoi ?
Pourquoi tout simplement ? On est face à une équipe de France hockey qui mettait en place un jeu de contre-attaque durant le mondial. Et là, on se rend compte que c'est plus possible. On est face à une équipe de France qui a des joueurs mais hyper talentueux. Je pense à Kylian Mbappé. Bon, Ousmane Dembélé, on va le passer sous silence parce que c'est un petit peu compliqué avec Barcelone en ce moment. Mais face à des attaquants français qui sont parmi les meilleurs du monde et on n'utilise pas ce fond de jeu. Et on est face à une équipe qui recule, qui recule, qui recule. Et au bout d'un moment, c'est plus possible. On est face à des joueurs qui sont plus haut niveau. Il faut que Didier Deschamps fasse clairement des changements. C'est plus possible. Moi, je suis pas content.
Lucas Cerdic.
Non, moi, je fais partie.
Timothée Rouvière n'est pas content.
Je fais partie aussi des gens qui étaient vraiment pas contents face à ce match. Mais je suis pas d'accord sur le fait que le style soit terminé. Ce qui a été vraiment pénalisant pour cette équipe de France, et ce qui nous a vraiment déçus, c'est le manque de réaction en deuxième mi-temps. Quand que l'équipe de France se fasse dominer pendant un match, c'est déjà arrivé. Mais qu'il se fasse remonter les bretelles à la mi-temps, que Didier Deschamps prenne les bonnes décisions, c'est souvent arrivé aussi derrière. Et là, le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a été encore plus dominé qu'en première, avec un nombre incalculable d'occasions concédées, avec des changements que Didier Deschamps n'a pas osé faire, alors que clairement, il suffisait d'être un petit peu objectif pour voir qu'N'Golo Kanté n'était pas dans son match, que Steven Nzonzi ne servait à rien et n'allait pas vers l'avant et ne remplaçait pas du tout comme il fallait Paul Pogba qui lui prend des risques et va vers l'avant. Tanguy Ndombele, sur les 10 minutes qu'il a joué, a prouvé beaucoup plus de choses que Nzonzi
premier but
sur ce match.
Pour lui, en plus. Premier but, je crois.
Sur Nzonzi. Nzonzi est sur le premier but.
Ouais, c'est ça, Nzonzi, en plus, sur le premier but, il est catastrophique. Mais j'aime bien ce joueur. J'ai pas envie de lui jeter la pierre parce qu'il avait fait une super entrée en finale face à la Croatie au mondial. Mais là, clairement, c'était pas le bon choix. Le vrai problème sur ce match, c'est qu'il y a eu des mauvais choix qui n'ont pas été rectifiés, qui n'ont pas été changés à la pause. Et d'habitude, l'équipe de France réagit. Là, elle n'a pas réagi. Mais ça veut pas dire que sur le prochain match, elle ne le fera pas.
Le prochain match, c'est demain face à l'Uruguay. Ouais.
Mais j'attends aussi une réaction demain contre l'Uruguay, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi un peu de fatigue.
Est-ce que c'est normal?
L'année, elle a été longue quand même, elle a été très longue pour ces Bleus. Entre le championnat, il faut tirer la Coupe du Monde, vous allez jusqu'à mi-juillet, puis ensuite vous avez la préparation, vous reprenez pour certains mi-août.
Et du coup, ça fait partie des mauvais choix. C'était peut-être le moment aussi de lancer un petit peu de sang frais, de tenter un attaquant un peu plus en réussite qu'Olivier Giroud, dont on sait qu'il a la confiance du sélectionneur, c'est bon. De tenter un milieu de terrain un petit peu plus audacieux, de faire confiance à quelqu'un d'autre que Lucas Digne. Enfin, moi, j'ai rien contre ce joueur, mais bon, Timothée,
c'est pas trop ça. Timothée.
Moi, je suis d'accord avec vous, messieurs, qu'il y a eu un relâchement coupable sur la deuxième mi-temps et sur le match contre les Pays-Bas. Mais il faut voir que depuis la Coupe du Monde, les Bleus sont dans une forme de confort. Le match contre l'Allemagne et le match.
Est-ce qu'on peut parler de confort, messieurs ?
Moi, je pense que les Bleus sont dans une sorte de confort.
Confiance excessive.
Leur place. Et Didier Deschamps est pas un homme qui va faire des changements. Mais je suis désolé, à chaque ligne, il y a des changements à faire. On parle de Blaise Matuidi sur un côté, il y a clairement quelque chose à faire. Lucas Digne, ça tient pas la route derrière. Et on voit là.
Matuidi, c'était le seul à pas sortir sur ce match, mais bon, ça c'est mon avis.
On est d'accord, mais pour moi, Blaise Matuidi ne peut pas aller en attaque.
Aller en attaque.
Il a joué dans l'axe contre les Pays-Bas, il joue en 4-3-3.
Il joue un peu partout, Blaise Matuidi, ça son grand point fort.
Blaise Matuidi, c'est un milieu de terrain, pourquoi le mettre s'obstiner, le mettre sur un côté, alors qu'on a des joueurs qui sont beaucoup plus forts.
Ouais, sur la première mi-temps, c'était clairement Kylian Mbappé qui était sur le côté, Blaise Matuidi venait en renfort, il était un petit peu dans l'axe aussi, il
servait
de piston un petit peu étrange. Non, mais voilà, il y a une forme de relâchement aussi qui est complètement naturel. Logique, quoi. Ouais, ils sont allés tellement loin de même. Ouais. Le seul qui l'a dit direct après la Coupe du Monde, ce n'est qu'une étape, je veux aller plus loin, c'est Mbappé. C'est un des seuls qui ne s'est pas relâché d'ailleurs en club derrière. Ouais. Mais tous sont en difficulté, plus ou moins, chronique. On ne parle même pas
de
Raphaël Varane,
de redescendre de Pavard.
Voilà, c'est très, très, très difficile. C'est pour ça qu'il aurait peut-être fallu apporter effectivement peut-être un petit peu de concurrence, un petit peu de sang neuf, ce que n'a pas fait Didier Deschamps et ce qu'on a le droit de critiquer.
Est-ce que les autres ont le niveau de faire concurrence? On parle de Benjamin Pavard, mais on met qui? Djibril Sidibé qui est complètement à la ramasse à Monaco.
Avant l'arrière droit, il y a des
Olivier
joueurs.
Giroud,
en fait, il ne faut pas tant regarder qui a changé, mais plutôt qui est en forme, qui a quelque chose à prouver sur le terrain et qui est en pleine bourre. Et Tanguy Ndombele, clairement, fait partie de cela. C'est trop dommage de ne pas l'avoir tenté.
Moi, je pense qu'il y a un problème sur les côtés en équipe de France. On voit que Lucas Hernandez n'est pas là. Lucas Dille, ça a été un naufrage. De l'autre côté, Benjamin Pavard, à part son but contre l'Argentine, il n'y a plus grand-chose derrière. Djibril Sidibé, ça fait 7 mois qu'il traîne une grave blessure au genou. Il ne s'en remet pas avec Monaco, c'est catastrophique. Il manque clairement des joueurs performants sur les côtés. Donc, on a appelé Ferland Mendy, ça, c'est positif.
Il fallait le tenter. Bonassar, moi, je suis désolé, il faut le tenter. Je ne vois pas pourquoi on ne le tenterait pas. En fait, je ne vois aucune bonne raison de ne pas le tenter. Il n'y a pas qui crierait au loup. Il faut essayer.
Pour Bounassar, est-ce le fait que ce soit pas un défenseur de métier qui gêne un peu ou pas?
Qu'il est performant.
Oui, certainement, mais il est très performant à Marseille depuis un an maintenant à ce poste-là. Ouais. Moi, je pense qu'il faut le tenter. C'est pas comme si on avait pléthore d'options à droite. Au bout d'un moment, il faut y aller.
Ouais. On parlait tout à l'heure de Benjamin Pavard, on parle d'Olivier Giroud. Est-ce qu'il faut mettre fin à l'immunité de ces joueurs, de certains joueurs, Giroud qui ne marque pas, qui est en cours de forme, hein, Giroud, joue pas trop à Chelsea, Pavard qui reste sur un but sensationnel contre l'Argentine et qui roule dessus depuis pas mal de temps.
Mais il faut pas tant les sanctionner, une fois, que juste les mettre.
On parle pas de sanctions, mais de mettre en concurrence.
Voilà, de toute façon, après, ils font partie intégrante du système de jeu qu'a mis en place Didier Deschamps. Et si tout le monde arrive tout le monde arrive en forme et motivé, avec la même composition, je vois pas pourquoi on pourrait pas de nouveau refaire
Olivier Giroud qui ne marque pas, c'est pas la première fois que ça arrive, mais d'habitude, il arrive à être précieux dans le jeu. Là, il a été particulièrement transparent. Mais bon, ça vaut aussi pour Kylian Mbappé en deuxième mi-temps qu'on n'a pas vu du tout.
Mais il faut clairement que Didier Deschamps essaye de nouveaux systèmes, parce qu'on voit qu'avec Olivier Giroud, c'est quelque chose qui traîne. Il faut échanger de nouvelles choses. L'Euro 2020 est en moins de 2 ans. Pour moi, Olivier Giroud, ça va pas tenir la baraque longtemps, et on se prive d'un joueur. Donc, il peut jouer ce rôle de pivot, mais je pense qu'il faut aussi essayer autre chose.
À sa décharge, il a eu quelques gros blessés. Il aurait peut-être voulu tenter là, ça se trouve. Il avait convoqué Martial, puis Lacazette. Il a pas pu les mettre, peut-être.
Mais pourquoi pas essayer Pléa?
Il y a un match amical demain. Est-ce que c'est le moment ou jamais pour Didier Deschamps de tester? On pense à Pléa, on a déjà
une info qui est tombée en cours d'émission. On va certainement avoir, moi je trouve pas que ce soit spécialement du gros changement, mais une défense centrale Rami Sacco. C'est un petit peu
la défense de 2014, ça
c'était
un match de 2012-2013 Blanc 2011-2012 où Sacco et Rami ont été avec Mexès.
En tous les cas, quand on voit le réservoir qu'on a en défenseur central, on peut se poser la question l'intérêt de rappeler Sacco et de faire continuer à jouer Rami, même si on adore ces deux joueurs. A priori, c'est eux qui vont jouer, et Ferland Mendy sur le côté gauche. Donc oui, il va tenter des choses. Encore heureux, c'est le dernier match de la saison, il faut y aller là.
Là, c'est amical.
Quel style adopter pour Didier Deschamps? Quand on regarde l'effectif, il y a pléthore de joueurs, on l'a dit, au milieu de terrain et en attaque. Quel style adopter face à des adversaires qui maintenant vont nous attendre? Clairement, on est champion du monde en titre. Donc la concentration est encore plus importante chez les adversaires.
Le problème, c'est que les adversaires vont bétonner derrière, ils vont rester en défense et attendre que l'équipe de France vienne jouer. Et c'est pour ça qu'il faut changer le système de jeu et passer en 4-2-3.
Une question de style. De toute façon, après, je pense qu'honnêtement, vraiment, le problème, c'est la fatigue et un peu le confort. Mais de toute façon, on le voit avec une équipe comme la Belgique. La Belgique qui a pris 5-2 en Suisse, c'est quand même une belle équipe. Et puis bon, on voit qu'ils ont l'air un peu, ils avaient l'air un peu émoussés, un peu rincés. Ils sont peut-être aussi un peu usés de cette saison à rallonge. Bon, je pense que on a vu tous les cadors un peu, à part l'Angleterre quand même, qui a tenu son rang, mais qui a eu de la difficulté à battre. Même la Croatie.
L'Angleterre avait l'Espagne et la Croatie dans ses poules.
Mais bon, je veux dire.
Mais ils n'ont pas fait une Coupe du Monde si éprouvante que ça. Les les Anglais.
Ouais,
ils
oui,
ont, ils
oui,
sont arrivés en demi, un petit peu dans un fauteuil.
Quoi. Mais ouais. Bon, moi je pense que ça tient surtout d'une certaine fatigue aussi, psychologique.
Je suis d'accord avec Maxime, c'est pas une question de système. Il faut adapter le système en fait, aux joueurs qu'on a et qui sont très talentueux et qui sont incontournables. On ne peut pas aujourd'hui imaginer une équipe de France sans Mbappé et Griezmann. Il faut trouver un système qui les mette dans un fauteuil et dans les meilleures dispositions. On ne peut pas imaginer que Pogba ou Kanté ne jouent pas. Il faut juste trouver le bon système pour les mettre en valeur. Et si il faut mettre Matuidi en ailier gauche, on mettra Matuidi en ailier gauche. Moi, je vois pas où est le problème si ça marche.
Sans Matuidi, il va aller jusqu'à l'Euro 2020. Après,
il avait dit qu'il s'était.
Comme Olivier Giroud d'ailleurs. Hein. Olivier Giroud, normalement, après l'Euro, on le verra plus. En équipe de France. Messieurs, merci. On le rappelle, l'équipe de France est pour l'instant première de son groupe. En attendant le match de ce soir, Allemagne-Pays-Bas. En cas de match nul, c'est les Pays-Bas qui vont jouer le Final Four. C'est au Portugal, face finale à Porto et Guimarães du 5 au 9 juin 2019. On verra tout simplement si l'équipe de France va rejoindre.
Qui est qualifié pour l'instant? On a la Suisse qui est qualifiée pour l'instant.
Oui, la Suisse, l'Angleterre et le Portugal, qui va accueillir.
J'avais une question pour Jean. Est-ce que vous êtes pour l'Allemagne du coup pour une fois? On sait que vous n'aimez pas trop cette équipe.
Oui. Ça me fait mal, mais j'avoue. Je dirais pas je suis pour l'Allemagne,
je suis pas contre l'Allemagne.
Je veux vous entendre dire ich lebe dich.
Je suis un simple supporter entre guillemets de l'Allemagne, sympathisant allemand.
De passage.
Pour ce soir, j'ai pris un cours CDD.
Payer une fortune, par contre.
Exactement. Messieurs, merci. On se retrouve tout de suite avec l'invité de la semaine.
Nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis et si ça nous va bien. Fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis, et si ça nous va bien, dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi.
Et ça parle beaucoup dans les studios de Radio Présence. C'était Yannick Noah sur Radio Présence. On n'a pas.
On a le jingle là.
Ouf.
Sportez-vous bien. L'invité.
Notre invité fait grandir son sport entre guillemets en France. Boris Rotermund est directeur technique adjoint en charge du haut niveau à la Fédération française de baseball. Il a pour but de monter une équipe solide déjà pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et ensuite éventuellement pour Paris 2024. Boris, bonsoir.
Bonsoir.
On vient de le dire, on va parler baseball ce soir. Alors tout le monde, tous les auditeurs, je pense que les chroniqueurs connaissent le baseball, le nom baseball.
De vue,
Voilà, exactement, mais on connaît un peu moins les règles. En quelques mots, ça consiste en quoi ce sport, le baseball?
Alors en quelques mots, c'est très simple, hein. On imagine bien que la simplicité de ce sport. Non, en fait, c'est deux équipes en fait, qui s'affrontent avec une équipe en défense et une équipe en attaque. Et c'est 9 contre 9. D'accord. Et une équipe en attaque, et ben, elle est toute seule à performer, elle essaie de faire le tour des bases. Et son coéquipier qui suit derrière essaie de le faire avancer autour des bases et de marquer le point. Donc on revient sur le marbre, ce qu'on appelle le marbre.
La tour égale un point.
Voilà, tout okay, à fait. D'accord. Et la défense qui essaie de faire les 3 retraits le plus rapidement possible, ben, essaie d'éliminer le frappeur le plus vite possible, c'est-à-dire soit en rattrapant la balle de volée, soit en relayant la balle qui a été frappée au sol sur la base avant que le coureur arrive.
Et quand il y a un home run, comment ça se passe?
Quand il y a un home run, et ben, il y a un
tous les gens sur la base
voilà, il y a minimum un point puisque c'est celui qui a frappé qui marque le point, plus tous ceux qui étaient sur base avant.
Ah oui, d'accord, ça fait ça coûte
ça
cher.
Peut aller jusqu'à 4 points.
Donc,
le grand slam, ce qu'on appelle le grand slam, c'est le home run avec les bases pleines.
Les bases pleines, ouais. Ça, c'est une tactique, c'est utilisé souvent ce genre de truc ou c'est compliqué?
C'est très compliqué.
C'est compliqué à faire. Compliqué.
Un bon frappeur, c'est une personne qui arrive à 30 fois sur 100, arrive à être en première base. Donc ça veut dire qu'il y a une grande part d'échec pour le frappeur quand même.
Ah ouais, quand même. Nous avions reçu Eddy Martin qui est toujours l'entraîneur de hockey sur glace de Toulouse et qui nous disait qu'il prenait exemple des Canadiens. Est-ce pareil avec vous vis-à-vis des États-Unis?
Bah, les États-Unis, c'est forcément la plus grosse franchise américaine professionnelle, hein, la Major League Baseball qu'on connaît. C'est sûr que les États-Unis servent en termes de culture, c'est une culture forte de baseball. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi Cuba, vous savez, qui est une équipe qui est très très forte, avec une culture aussi du baseball qui est très forte, mais surtout les pays asiatiques,
la Corée
et le Japon, qui sont maintenant les nations fortes du baseball mondial.
Et c'est les mêmes règles, c'est les mêmes surfaces. On revient sur le hockey sur glace, où vous nous expliquez qu'entre l'Europe et qu'entre l'Amérique, c'était pas les mêmes surfaces.
Alors nous, on a exactement les mêmes surfaces au niveau international. C'est vrai qu'en France, la problématique, c'est la surface de jeu. Ouais. C'est 2 terrains de foot pour une surface.
Bah, c'est
C'est la complexité de notre sport aussi, et de pouvoir s'implanter en France avec des infrastructures de haut niveau.
Et justement, en France, où est-ce qu'on pratique le baseball? Où est-ce qu'on a des stades de baseball? Comment on fait? Est-ce qu'on fait un petit peu à l'arrache, justement? Comment ça se passe?
Alors il n'y a pas beaucoup de stades en France. On en a quelques-uns en région parisienne, à Paris, à Sénart, à Rouen, qui a un très bon terrain. Clermont-Ferrand, un bon stade. À Toulouse, on a un terrain international, mais sans éclairage. Donc ça pose un petit peu problème. Mais voilà, il y a quelques collectivités qui ont investi un peu d'argent sur l'équipement, mais ce n'est pas encore digne d'un niveau international.
Maxime Brossard.
Est-ce qu'il y a une région particulièrement en France où le baseball est un peu plus développé? Je pense, vous parliez du hockey, la région de l'Est, de la Savoie, là il y a beaucoup d'équipes de hockey. Est-ce que vous, il y a une région vraiment où le baseball est un terreau propice?
Alors oui, c'est Rouen, parce qu'un peu comme le hockey, la culture canadienne est forte. Et Rouen investit énormément, la collectivité comme la métropole investit beaucoup sur ce sport américain. Après, il y a dans chaque région, la Bretagne se développe bien. Ouais. Bien sûr, c'est un sport aussi qui se joue beaucoup l'été. Donc, dans le sud de la France, c'est plutôt propice aussi à ça. Avec Montpellier, Toulouse, on a des clubs de bon calibre.
Toulouse, justement, c'est un bon vivier. Il y a le Pôle France, c'est ça, hein?
Alors, le Pôle France, oui, c'est ça. C'est les meilleurs 16-19 ans. Mais Toulouse, c'est aussi un club avec les Argoulés, le stade Toulouse en baseball. Et Montpellier, qui sont dans la même région maintenant. Et donc on a ce vivier-là de joueurs qui complètent en fait le Pôle France avec les meilleurs 16-19 ans qui sont au Crêpes à Toulouse.
Vous faites partie d'un championnat de France, du coup, de l'élite du championnat de France?
Oui, c'est ça, il y a un championnat à 8 équipes. Après, il y a plusieurs divisions, hein, comme dans tout le sport, dans le championnat de France. Et le championnat de première division, c'est avec 8 équipes, dont Toulouse et Montpellier, qui font partie de ce championnat.
Et c'est quand que ça se joue? Quand est-ce qu'on peut voir des matchs de baseball à Toulouse, par exemple?
En mois de mars, à partir du mois de mars jusqu'en septembre. La fin de saison, c'est septembre, quand les pluies arrivent. Nous, on n'aime pas trop quand il pleut.
C'est comme au tennis, le match s'arrête s'il pleut?
Oui, c'est ça. On arrête pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et c'est si tant qu'il faut. Reprendre, voilà, si on peut pas reprendre au bout d'une heure, on annule la rencontre.
C'est trop risqué, le terrain est trop glissant, la balle aussi.
La balle, surtout la balle et le terrain, oui. Ça dépend aussi de la surface du terrain.
Vous nous avez ramené une balle de baseball là dans les studios. Oui. On peut le dire, hein, c'est extrêmement lourd. Hein. C'est solide.
C'est lourd, c'est surtout très dur.
C'est surtout très dur. C'est pas très lourd, c'est 140 grammes, mais c'est surtout très très dur.
Il y a une taille réglementaire pour les compétitions internationales.
C'est ça. Les balles sont très spécifiques, que ça soit pour le baseball ou le softball, il y a les différents diamètres en fonction de l'activité. Et le softball, c'est la pratique olympique féminine, et puis le baseball, c'est la pratique olympique masculine.
Maxime Brossard.
Est-ce que, toujours pareil, avec l'exemple du hockey sur glace que je connais bien, est-ce qu'il y a une diaspora un peu ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Américains qui viennent en France ou de Canadiens qui viennent apporter leur savoir dans les clubs ? Ou est-ce que vraiment les Français arrivent à s'en sortir ?
Alors on essaie de trouver un mix, c'est vrai qu'on a un nombre d'étrangers qui est limité par rapport au championnat de France, mais toutefois les meilleurs jeunes français qui sont passés par le Pôle France de Toulouse et qui ont acquis un certain niveau d'expertise permettent de jouer en première division dans le championnat de France, mais surtout de partir aux États-Unis, de partir en collège aux États-Unis ou dans le système pro américain, parce que c'est la meilleure filière, le meilleur parcours pour nos athlètes, un peu comme au hockey j'imagine, comme dans le basket qui a été fait pendant de nombreuses années.
Où se situe le baseball français dans le monde ? Il y a les États-Unis, il y a l'Italie, les Pays-Bas ?
En Europe, oui, c'est ça. On est dans les 5 meilleures nations européennes. On est 24e, 25e nation mondiale. On est un petit peu loin par rapport à du ranking de niveau des 12 premières nations qui font leur propre championnat du monde. On est quand même invité au championnat du monde professionnel, c'est-à-dire la World Baseball Classic. On a un tournoi de qualification aux États-Unis tous les 4 ans. Donc on est invité parce que Paris représente une belle ville et une belle nation aux yeux de la Major League. Donc c'est intéressant pour eux de nous inviter. Mais voilà, on essaie de grimper dans le ranking mondial et d'arriver dans les 12 premiers pour arriver à ce championnat du monde de top 12.
Est-ce qu'il est envisagé, comme en NBA, de délocaliser des matchs de MLB dans des pays européens ? Bon, alors vous avez parlé des infrastructures qui sont peut-être pas au niveau. Est-ce que c'est ça qui bloque ou est-ce que c'est en projet ?
Alors, très bonne question, parce qu'on accueille à Londres la première fois les Boston Red Sox contre les New York Yankees.
Justement, là.
À Londres, le 27 et 28 juin prochain. Ah ouais. Et on avait proposé notre candidature, nous, à Paris, avec le Stade de France, puisqu'on avait travaillé sur ce projet-là avec le Stade de France. Le Stade de France était intéressé. Pour la Major League, c'est un petit peu tôt, mais on espère, avec Paris 2024 et toutes les opérations pour essayer d'arriver sur ces JO, des promotions.
Mais est-ce qu'il y a manqué au Stade de France pour accueillir, puisque si on parle d'un stade de 80 000 places.
Oui, mais apparemment, c'est pas
le Stade de France qui a manqué, c'est la Major League qui a décidé de partir à Londres. Parce que culturellement,
c'est plus proche.
C'est plus facile pour eux d'aller à Londres que d'aller à Paris, et puis pour les joueurs comme pour le. Comme peut le public
comme
aussi.
Comme l'a fait la NFL ou la NBA, c'est
exactement. Ils ont souvent fait ça à Londres, donc ils ont cette culture-là aussi de le faire à Londres.
Le baseball en France, ça représente combien de licenciés ?
On est à 13 000. On augmente tous les ans. On est à plus de 25% tous les ans, donc on augmente. On était à moins de 8 000 il y a 10 ans de ça, et on augmente, mais c'est vrai que ce n'est pas encore significatif. On aimerait s'installer plus dans les écoles, on aimerait être plus présent dans les clubs, on aimerait avoir plus de clubs. Avec 250 clubs, c'est pas beaucoup. C'est pas voilà, on est très peu dans la région. Il n'y a que 4 clubs dans la région. Donc c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué à se développer. Beaucoup de transports, beaucoup d'argent dépensé dans les transports qui complexifie derrière le développement du sport.
Et vous pensez que c'est ça ? C'est le manque d'argent qui fait qu'il y a peut-être un manque de motivation ? On parlait des déplacements, effectivement, mais j'imagine que ce n'est pas un sport qui nous permet de gagner la vie. Notre vie, et en plus de ça, l'équipement doit être assez coûteux, non ?
Alors c'est surtout le transport qui est fatigant pour les jeunes qui jouent en première division, parce qu'ils ne sont pas professionnels, ils sont amateurs, ils sont étudiants, ils sont professionnels dans un autre secteur. Et donc rentrer le dimanche soir à 3h du matin pour reprendre le boulot le lundi, c'est compliqué pour eux. On ne peut jouer que le dimanche de match. Pourquoi ? Parce qu'il manque d'éclairage, il manque d'installation. Donc derrière, ils se retrouvent à accumuler un certain nombre de matchs rapidement, en peu de temps, et de repartir pour les déplacements. Donc oui, c'est compliqué pour eux, c'est vraiment un sport passion. Hein. C'est vraiment ces joueurs-là, ils sont dévoués.
Justement, si des auditeurs de Radio Présence veulent venir faire du baseball, Lucas a parlé du matériel. Combien coûte, par exemple, on n'a pas les prix, une raquette, on a les prix, les chaussures, les crampons, on a les prix, mais combien coûte à peu près le gant mythique, la batte de baseball? Alors,
le très très beau gant, il coûte 300 euros. Après, le gant pour les enfants, voilà, le gant pour les enfants, il est très abordable, à moins de 50 euros facilement. Ouais. Donc après, c'est pas forcément du vrai cuir. Oui, voilà. Oui. Donc après,
pour il faut la batte.
Voilà, la batte, c'est pareil, elles sont adaptées en fonction de l'âge et de la catégorie d'âge. Mais
c'est en bois au niveau international, c'est ça?
Voilà, en bois au niveau international. Mais on en trouve en alu pour les jeunes, pour les plus jeunes, pour que ça parte un peu plus loin, pour qu'il y ait plus de jeux.
Lucas Cerdic,
vous nous parlez, enfin vous êtes donc au Pôle France ici, vous croisez beaucoup de jeunes espoirs français. Est-ce que justement il y a des jeunes espoirs français qui sont très prometteurs?
Ah oui, on a cette chance d'avoir. On espère avoir notre premier Tony Parker comme au basket en NBA qui a explosé. On espère l'avoir aussi au sein du Pôle France à Toulouse avec Andy Paz qui est dans le système pro actuellement et qui chaque année retourne dans le système pro. Donc c'est un des joueurs qui a signé il y a maintenant 7 ans de ça en sortie du bac. Il a signé son contrat pro dans la franchise des Oakland A's. Mm-hmm. Et on a signé d'autres joueurs dont Ernesto Martinez qui est maintenant chez les Brewers. Il a tout juste 18 ans, donc il commence sa formation professionnelle. Et un autre lanceur, Johan Antona, qui passe son bac cette année et qui s'en va chez les Phillies.
Incroyable. Vous parlez d'un joueur qui a passé son bac il y a 7 ans et qui a signé il y a 7 ans et qui a, entre guillemets, toujours pas explosé. C'est parce que c'est un sport où on explose sur le tard?
C'est en fait un sport où il y a 7 divisions en fonction de la franchise. Vous signez chez les Oakland A's ou les Boston Red Sox et vous avez 7 divisions avant d'arriver en Major League.
Ah oui.
Donc c'est pour affranchir ces 7 divisions, il faut un temps, c'est-à-dire qu'il y a un temps de formation d'athlète. Un athlète qui est mûr et qui est prêt à exploser à très très haut niveau, il a entre 27 et 35 ans.
C'est ça en fait.
Donc tout son passage, toutes ces années de formation, il est quand même dans le milieu pro.
D'accord.
C'est pour ça qu'on peut choisir, après son bac, soit on est agent libre et on signe un contrat pro, soit on passe dans le système universitaire avec, vous savez, le cursus université américaine. Et là, on passe dans le draft. Ouais. Voilà.
On franchit tous les paliers à ce moment-là.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a 25 ans, ils ont fini leur scolarité universitaire et ils passent dans le système pro. Ils ont 25, 26 ans.
Ouais.
Et là, ils sont pas loin
du très haut niveau.
Du Graal.
Maxime Brossard.
Là, en fait, donc, ils arrivent quand même, par rapport à d'autres sports, assez tard, on va dire, dans le haut niveau. Et du coup, on peut jouer jusqu'à quel âge au baseball généralement?
Maximum 40-43 ans, c'est le record. Hein.
Ouais.
Mais c'est assez exceptionnel.
C'est traumatisant.
C'est un sport de puissance, de coordination visio-motrice. Ouais. Et c'est vrai que les réflexes diminuent fortement à un certain âge. Et à partir de 40 ans, ça devient compliqué.
Lucas Cerdic.
Non, mais on parlait des espoirs. On avait une Toulousaine qu'on avait suivie, ou en tout cas dont on a entendu parler il y a 2-3 ans, et on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Est-ce que vous pouvez nous donner de ses nouvelles?
Alors, la petite Toulousaine, c'est Mélissa Mailleux. Ouais. Elle a fait un peu, elle a brisé pas mal de barrières dans le milieu du baseball, parce qu'elle est. C'est une fille.
Ouais.
Et dans le milieu du baseball, c'est très masculin. Et donc, normalement, les filles jouent au softball. Et donc, elle était assez douée au baseball et elle a continué à travers le Pôle France à se développer et à arriver à un certain niveau qui lui permettait d'être draftable, de signer un contrat pro avec la Major League. C'était la première femme pouvoir être signé un contrat pro.
Incroyable.
Et donc c'est pour ça que ça n'a pas fait seulement le buzz au niveau local à Toulouse, mais sur CNN, sur toutes les grandes chaînes aux États-Unis, parce que ça a cassé un mythe énorme par rapport à Mélissa. Mélissa, maintenant, elle n'a pas trouvé de bourse américaine pour pouvoir jouer au baseball aux États-Unis.
Parce que c'est une femme?
Parce que c'est une femme, malheureusement. Parce qu'elle avait largement le niveau pour trouver une bourse pour jouer au baseball. Elle pourrait toujours jouer au baseball. Aujourd'hui, maintenant, elle est à Miami, en Floride, en première division junior collège.
Maxime Brossard.
Dans le softball, pardon.
Oui, et du coup, c'est un sport mixte, alors elle aurait pu jouer avec les hommes, c'est bien, si j'ai bien compris ou...
Oui, on a brisé des barrières, ça veut dire qu'il y avait des règlements qui sont très spécifiques, et en Europe, on a dû changer les règlements pour pouvoir lui permettre de jouer jusqu'en championnat d'Europe 18U. C'était quand même une exception dans le système, et elle a participé à des compétitions aux États-Unis aussi, et ils ont changé certains règlements pour pouvoir l'accepter.
Est-ce que ça veut dire qu'on ne la verra jamais en MLB, qu'elle le fera toute sa carrière en softball, ou est-ce qu'il y a peut-être une passerelle qui n'existe pas encore, mais qu'elle va créer, je ne sais pas.
Bon, je pense que cette barrière-là, elle est capable de les briser, en tout cas, c'est un de ses défis, je pense, et donc avec Mélissa, on peut s'attendre à tout.
On va venir sur votre rôle au sein de la Fédération Française de Baseball. Quel est le rôle, tout simplement, d'un DTN, donc directeur technique national adjoint?
Alors ça dépend de chaque fédération. Moi, j'ai une utilité j'espère, le plus probable possible avec la coordination de toutes les structures de haut niveau. Donc il y a des pôles espoirs pour les 13-16 ans, et ensuite il y a Montpellier, à Rouen et à Bordeaux. Et il y a un pôle France baseball à Toulouse, et il y a un pôle France softball à Boulouris. Donc voilà, je dois coordonner ces différentes structures avec le recrutement, la formation et le suivi d'après-pôle. Et après, toutes les équipes de France aussi, bien sûr, il y a les équipes de France baseball, softball. Donc en fonction des catégories d'âge, on commence en 12U, donc ça peut surprendre qu'on commence déjà très très jeune à faire de la détection et un championnat d'Europe en 12 ans. On a fait un championnat du monde 12U déjà, et après c'est les 15U, les 18U, les 23U et les seniors.
Vous êtes manager des 18U et 23U de l'équipe de France de baseball. L'objectif, c'est dans un an et demi maintenant, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ou on pense à Paris ? Sachant que Paris n'est pas officiel encore.
Paris n'est pas officiel, mais on se concentre beaucoup sur Tokyo parce qu'on a un contrat d'engagement avec le ministère. Ouais. Hein, comme chaque fédération, on fixe des objectifs et on se donne des moyens de réussir. Le premier objectif, c'est d'arriver dans le tournoi de qualification pour Tokyo. Pour ça, il faut arriver en septembre 2019 dans les 5 premières nations européennes. C'est largement à notre portée. Et derrière, montrer que le baseball existe en France, montrer à l'Europe que la France est prête, et que derrière, on vise beaucoup sur Paris 2024 pour accueillir les JO, bien sûr.
En cas d'acceptation, entre guillemets, si on va le savoir en 2020, si le baseball est aux Jeux Olympiques Paris 2024, le travail n'est pas à faire, puisque la France serait qualifiée d'office, c'est bien ça, en tant que pays organisateur pour les Jeux Olympiques.
C'est ça, tout
donc
à fait.
Donc ce serait tout bénef, un apprentissage
en plus. Justement, dans l'apprentissage et dans la formation de notre équipe de France, c'est vraiment l'idée. Quoi. C'est de faire cette trame à partir de maintenant jusqu'à de Tokyo, une passerelle pour pouvoir composer déjà la meilleure équipe et se qualifier.
Donc
pour
l'équipe de France, c'est les U18 actuellement qui vont peut-être représenter, ou les 23.
Les 23 U18, oui, c'est un mix des deux, ça dépend de leur parcours d'athlète. Si ils signent des contrats pro dès 18 ans et qu'ils signent un système pro, ils vont être très efficaces en équipe de France, ça c'est sûr.
Je reviens sur Mélissa, désolé, mais est-ce qu'elle fait partie de cette équipe de France ? Est-ce qu'elle peut ? Est-ce que c'est mixte ?
Alors, j'espère surtout que Mélissa pourra représenter l'équipe de France softball à Paris 2024, parce que il y a une équipe de France softball qui est très performante et qui peut en plus accéder rapidement, peut-être même à une qualification pour Tokyo. Donc, voilà, parce que Mélissa fait partie de ce groupe-là maintenant, on la met dedans parce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent en collège aux États-Unis et qui ont les capacités de remporter ce championnat.
Mais dans l'absolu, elle aurait pu, sinon
Elle peut prétendre. Okay. En tout cas, elle peut prétendre.
Mais elle ne peut pas faire les deux.
Elle ne pourra pas faire les deux, malheureusement.
Comment on fédère un groupe à un an et demi des Jeux Olympiques, qu'on est manager, qu'on est DTN adjoint ? C'est compliqué ?
C'est compliqué parce que forcément les joueurs connaissent un petit peu les enjeux et toute la pression qu'ils ont derrière eux, parce qu'on sait que si jamais on y arrive, eh ben c'est un autre regard vis-à-vis de vous par rapport à tout ce qu'on met en place et par rapport au fait du championnat d'Europe. Si on s'y qualifie, eh ben derrière forcément votre regard en tant que journaliste changera, et puis la presse, les médias, tout le monde autour pourra nous accompagner, et bien sûr ça pourra changer aussi le regard du COJO et du CIO sur nos performances pour Paris 2024.
Boris, merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses avec la Fédération française de baseball. C'est déjà terminé pour nous ce soir, messieurs. Merci à vous. Merci à Coraline à la réalisation avec Grégoire. Retrouvez dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Oneil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. On se retrouve lundi. J'y avais promis. Un petit bonjour à Claude et Marie, Christine. Bonne semaine avec Radio Présence.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Bisous.
Trouvez toute l'actualité de l'Église régionale sur le site internet de Présence en tapant www.radioprésence.com. Le dimanche